tourne. Radio Vélo, Radio Vélo spécial Tour de France 2015 en ce 29 juin. À mes côtés, Seb de la partie.
Bonsoir à tous et à toutes.
Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Pour la deuxième heure de cette émission où il y avait également Yvan du Sport, Mika reste avec nous.
Bonsoir à toutes et à toutes.
Et également Julien.
Et rebonsoir à toutes et à tous.
À la technique, on va continuer bien à présenter en long et en large et bien le Tour de France 2015 sur CETA Radio. On a fait un petit débat tout à l'heure avec l'équipe de Il va y avoir du sport pour savoir et bien si le Tour restait l'événement sportif préféré des Français. La réponse a plutôt été unanime sur le oui. On va continuer la présentation en parlant et bien des coureurs qui seront les favoris du Tour. On donnera à la fin également nos petits pronostics. On aura Pierre Carré, le fondateur de Direct Vélo, pour présenter son nouveau livre 40 ans de maillot à poids. On aura également la petite rétro bouquin qui va bien à Philippe. Et puis on parlera des Français sur ce Tour de France 2015. Et puis nous allons commencer par les championnats de France. Philippe, tu voulais dire quelque chose avant?
Non, sûrement, j'aurais quelques petites anecdotes historiques tout au long de l'émission à vous donner, voilà.
Allez, on va commencer par revenir sur le championnat de France.
Et qu'est-ce qui s'est passé sur ce championnat de France?
Eh ben, ça a été, je pense, une édition des championnats de France de haute voltige, de haute volée, avec une course passionnante qui n'a jamais été jouée finalement, très indécise, des gros coureurs à l'attaque, et puis finalement ce dénouement avec le un peu celui qui faisait peur à tout le monde, Nasser Bouhanni, le grand sprinter, le plus grand sprinter français du moment,
qui était là dans les derniers moments où ça attaquait très très fort, il était là lui.
Qui a usé 30 Cofidis dans la journée pour en arriver là à 300 mètres du but. Il n'avait plus qu'à déborder les autres et probablement faire jouer sa pointe de vitesse. Il savait, et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas tenu debout, parce que des fois la pression n'aide pas, même s'il y a eu du mouvement devant lui, on va en reparler. Mais voilà, Nasser Bouhanni est tombé, n'a pas gagné ce succès qui commençait à être annoncé à l'avance. Et c'est le plus malin, c'est celui qui a été...
Qu'on avait déjà vu encore une fois sur la route du Sud.
Et qu'on avait peut-être le moins vu dans le dernier tour.
Est-ce
qu'on avait vraiment fait attention à sa présence? Steven Tronet.
Voilà. Bien sûr qu'on l'avait. Il sortait de la route du Sud où il avait gagné une belle étape. Comment ne pas penser à lui, sachant qu'il était vraiment en forme? Après, les autres, bon, mais peut-être que oui, peut-être qu'il l'avait dans un coin mis de côté, mais je pense qu'il ne fallait pas non plus. C'est un coureur qui a gagné une course le week-end dernier, donc comment un coureur comme ça n'est pas en forme? Il est en forme, fatalement. Donc forcément, il fallait compter sur lui. Alors c'est certain que par rapport à Bouhanni. C'est quand même pas le même registre maintenant, la course à l'escalier et ouais, voilà quoi.
Trôner sur le trône, a titré notre ami Patrick Louis.
Ouais, moi je crois qu'effectivement j'ai vu la fin de la course et tous les meilleurs étaient devant quoi. C'est rarement dans les championnats de France que tous les meilleurs sont devant, et je crois que hier, c'est pas volé, c'est un des meilleurs sur ce jour-là, c'est un des meilleurs qui a gagné.
Ce qui est exceptionnel, voilà, c'est que dans la dizaine de coureurs qu'il y avait sur cette ligne droite finale, il y avait le gratin du cyclisme français. Ils étaient tous là.
On a eu un scénario type avec une échappée de matinale, si je puis dire, où il y avait pratiquement tous les clubs représentés, tous les grosses équipes représentées devant. Cofidis a embrayé derrière pour revenir dessus. C'est vrai
ils ont vraiment pris leur responsabilité en laissant faire jusqu'au dernier moment, jusqu'à mettre en route dans les derniers moments et mettre toute la formation devant.
Ils sont revenus juste à temps, quand il fallait, au bon moment. Ouais. Voilà, ils n'ont pas usé la machine trop tôt dans la course parce que
il fallait vraiment avoir vraiment confiance, parce que bon, il y avait quand même des gros cadors qui étaient devant. Puis on voyait qu'au début l'écart ne fondait pas rapidement, donc c'était compliqué. Puis en fait, ils sont rentrés juste dans la dernière difficulté. Enfin, c'est rentré, ça a attaqué. Puis en fait, la course est une course de mouvement qui s'est faite à ce moment-là, et les plus forts sont partis devant, notamment Nasser. Non, vraiment costaud. Ouais.
Mika. Ouais,
et les Cofidis sont bien amenés aux 4-5 km avant l'arrivée, ils n'ont pas lâché. Il y a des coureurs qui ont essayé de sortir, mais des gros qui n'ont pas réussi à prendre un mètre. Donc ça a vraiment prouvé leur puissance collective. Quoi.
Exactement, et je pense que bon, Nasser, lui, sur son sprint final, pour en venir là, je pense qu'il a bien joué. Alors c'est vrai qu'après il y a une erreur, il faut le dire tel qu'il est. C'est vrai qu'il y a le coureur de la Française des Jeux qui fait un écart, Alors c'est vrai qu'après 240 km de course, on n'est pas forcément frais, mais il fait un écart et puis il l'amène au tapis. Il est déclassé par la suite et puis malheureusement pour Nasser, la victoire lui tendait les bras et puis ça a été bon pour toi.
Ouais, je rejoins Bruno Bastos qui dit que Rosseto a encore été énorme, mais il a été énorme à la Route du Sud. Et hier, il a roulé, mais comme jamais, il a roulé dans les derniers kilomètres. Il s'est mis devant, a roulé plein pot. Je crois que la formation Cofidis a vraiment une grosse équipe de rouleurs pour emmener Nasser sur le sprint.
Stéphane Rosseto, tu parlais qui était mon favori en fait hier matin au départ du championnat de France. Finalement, il a lui aussi bossé pour Boani.
Il a énormément travaillé.
Mais s'il n'avait pas bossé pour Boani, je pense qu'il était dans le groupe de Cador et il aurait pu faire quelque chose. Mais bon.
La course serait passée différemment. Après, la COF avait mis une stratégie en place
claire
et nette. Ils avaient super bien manœuvré. Il y a eu un petit grain de sable qui est venu enrayer la machine à 200 mètres, malheureusement, parce qu'ils avaient fait la course parfaite.
Si j'étais manager de l'équipe Cofidis, je me garderais toujours en route secours un Julien Simon. Je ne l'userais pas jusqu'à la saignée. Je garderais toujours en route secours parce qu'il est capable de gagner ce genre de sprint s'il y a un pépin comme hier.
Non, mais c'est sûr qu'en plus, hier, il a énormément bossé aussi. Donc, maintenant, après, voilà.
Et Nasser allait l'avoir dur, ces 300 derniers mètres. Parce qu'il a été lâché assez tôt, quand même. Parce que Julien Simon avait déjà fait tout son boulot.
Il partait de loin sur le sprint.
Il partait de loin. Mmh. Il pouvait quand même l'emporter. On accueille Claire Bricogne dans Radio Vélo. Claire, est-ce que tu nous entends?
Très bien. Et vous?
On n'allait pas s'arrêter, donc quand même on t'accueille parce qu'on était lancé là déjà sur ces championnats de France avant de présenter le Tour. Et on est en train de parler de l'équipe Cofidis qui a mis tous ces mecs à la planche, y compris Julien Simon que j'aurais gardé en route secours, je disais, et bien par rapport à s'il y avait un grain de sable pour Boigny ou un petit coup de vent ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas si globalement le monde du vélo n'a pas trop accablé Anthony Roux quand même, je trouve. Claire, t'as un passé quoi?
C'est difficile par rapport à Anthony Roux. C'est vrai que ce qui nous a manqué hier en plus, c'est peut-être la vue d'en haut, la vue d'hélicoptère.
Ouais.
Parce qu'on voit clairement qu'il y a un problème quand il se rabat, ça c'est clair, il y a une vague. Mais on ne sait pas si Nasser Boigny n'accélère pas en même temps. Et dans ce cas-là, Anthony Roux ne serait pas forcément fautif. Enfin, c'est assez compliqué à mon avis de juger. Comme ça, mais les commissaires ont dû juger qu'il y avait vraiment une faute de la part d'Anthony.
C'est vrai qu'il fait deux vagues. Il fait une première où il part, quand on le voit de face, il part sur le côté gauche. Après, d'un coup, il repart à droite. Après, c'est vrai que la vue, comme ça, est écrasante. On ne sait pas trop. La vue dessus aurait permis davantage juger. Après, voilà, c'est dans le final. Ça se joue des fois très peu. Nasser, il devait être très très près des roues parce que dans ces moments-là où ça va très vite, il ne faut pas lâcher le moindre millimètre. Malheureusement, des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais c'est comme ça.
Mais messieurs autour de la table, par rapport à ces championnats de France, qu'est-ce que vous retenez? Moi, si j'en retiens un, mis à part Steven Dronet, c'est Thomas Vaucler. Parce que franchement, Thomas Vaucler, je l'attendais plus moi à ce niveau-là. Non, je suis honnête, je ne pensais plus revoir un Thomas Vaucler à ce niveau-là. À chaque fois qu'il était repris ou que quelqu'un rentrait sur lui, je me suis dit bon, ben c'est bien, il a vraiment tout mis là, il est fini pour la journée du moins. À chaque fois, il repartait. Donc finalement, le Thomas Vaucler inépuisable et impronosticable et inarrêtable. Là, c'était du très très grand Thomas Vaucler.
Exactement, du très grand Thomas Vaucler. Et on l'a remarqué à chaque fois que l'équipe Europcar était en fin de contrat, il a toujours sorti le grand jeu pour justement se montrer que l'équipe était là, était présente, et a toujours aidé aussi Jean-René Bernodeau à aller trouver des sponsors et à montrer le maillot. Donc effectivement, c'est peut-être de bon augure pour la suite. Il faudra voir ce qui se passe sur le tour, mais attendons la fin juillet.
Non, je laissais Philippe. Philippe, vous voulez.
Ouais, effectivement, moi je confirme pour Thomas Vaucler. Quand on voit qu'il fait une très très bonne course juste avant le Tour de France, comme ça, soutien une année à la Route du Sud, avait bien marché également. Il fait un grand Tour de France. Donc, effectivement, ça promet de belles performances, Thomas Vaucler, pour le Tour de France.
Oui, je crois qu'il va encore nous mettre le feu, le Thomas. Claire ?
Oui.
Ton avis sur Thomas Vaucler, est-ce que c'est lui qui t'a marqué le plus à part Trôner ou il y en a un autre ?
Il y a Sylvain Chavanel aussi, à mon avis, qu'il faut surveiller. Il était très très lucide hier, il s'est pas beaucoup montré, mais il l'a dit à la fin, sa stratégie c'était de suivre les Cofidis, et je trouve qu'il a vraiment bien couru. Il a fait que 3e jeudi sur le contre-la-montre, mais on sait pas trop où il en est, et je pense qu'il prépare un coup pour le tour, pour une étape.
Ouais, pour son 15e Tour de France, je lisais, Julien.
Ouais, 15, déjà 15 tours, mais je rejoins ce que dit Claire. C'est vrai que hier il a fait une course au marquage de très près des rouges et blancs. Et c'est vrai qu'il a fait une course, il a fait une très très belle course. Bon, on l'a vu sur les derniers kilomètres, ils tous étaient là. C'est de bon augure pour le Tour.
De bon augure pour le Tour. Et puis Coppel, ouais, retrouvé, hein, ce coureur qui après quelques années compliquées, était champion de France contre la montre. Et encore hier, il a été animateur, donc c'est peut-être un des coureurs à suivre cet été.
Tout moi, ce que je retiens aussi de l'échappée finale, c'est que toutes les générations étaient représentées finalement, en partant de Thomas Vogler qui est plutôt en fin de carrière, il faut le dire, en allant jusqu'à Tony Gallopin, Warren Barguil. Donc ils étaient tous là quand même, hein, Julian Alaphilippe, ils étaient
Bardet,
tous présents.
Ils étaient tous, mais je disais les meilleurs cyclistes français étaient tous là. Voilà. Il n'y avait pas d'absent. À part Thibaut Pinot qui était devant sa télé, mais bon, c'est une autre histoire. Messieurs, Thibaut Pinot qui a dit qu'il y avait près de deux jours pour aller de chez lui jusqu'à Châteauneuf. Je sais pas s'il y va en poney ou en cheval, mais en France, on peut encore mettre deux jours à traverser le pays, apparemment.
Il y avait un vélo, il irait plus vite. Hein.
C'est une petite boutade. On lui en voudra pas s'il va beaucoup plus vite que tout le monde dans l'école du prochain Tour de France. Philippe.
Une autre petite boutade. Il est sorti dernièrement une revue que tu connais bien, qui sort chaque fois pour le Tour de France. Ça s'appelle Pédale. Nico, tu connais bien ça.
Mais j'ai commencé à le feuilleter ce week-end.
Et il y a d'ailleurs le ministre de la Défense sur un vélo. C'est assez rigolo.
Et le Drian.
Et à signaler que l'armée de terre a fait un beau champion de France. Oui. Puisqu'il y avait un coureur qui était longtemps dans l'échappée hier et qui se sont bien comportés pour leur première année professionnelle.
L'armée de terre qui une belle équipe et voilà, j'aime bien ces continentales qui jouent sans complexe comme comme Aubert 93,
eh oui, en droit à Aubert
ce qu'il est, vu que l'autre sponsor a préféré rallier la Fédé.
Et puis on va être un petit peu chauvin aussi, on a vu monsieur Loïc Chétou aussi beaucoup travaillé dans l'équipe Cofidis.
Alors il y a deux barbus, il faut faire gaffe, parce qu'il y a Geoffrey Soupe,
exactement,
aussi,
ils se confondent. Et puis Julien Loubet aussi qui a tenté sa chance, qui est parti avec
Guémard. C'est vrai qu'il était en forme, hein. La semaine dernière, la Route du Sud, il a montré de bonnes capacités et on savait qu'il voulait faire quelque chose sur ce championnat. Et il manque de rien, le coach.
Il a eu une semaine compliquée. Je lisais Patrick Louis qui disait qu'il avait une grosse angine et tout, donc il n'était pas à 100% malheureusement, parce qu'à 100% je pense qu'il jouait quelque chose hier.
Ben, surtout quand ça s'est fait dans le final, quand les coffres sont roulés, que ça a rattrapé l'échappée qu'il y avait devant, à un moment donné, c'est là que ça s'est fait, et je peux penser qu'il aurait été devant, quoi.
Mika, tu veux rajouter quelque chose? Oui, Claire.
Non, je disais, moi aussi, je vais être chauvine, du coup, et parler de Christophe Rigon, qui a fait un joli championnat de France, qui défendait sa place sur le Tour, c'est vrai. Il l'a bien gagné, c'est une preuve de panache. Ça aussi, c'est intéressant avant le Tour de France.
Et oui, il fallait valider son ticket pour le Tour de France. C'est vrai que la sélection de Riblon m'a aussi fait réfléchir et avoir une grosse pensée pour notre ami Blaise Cadry, qui a eu une saison compliquée après la super année l'an passé où il a gagné une étape du Tour à Gérardmer. Malheureusement, il a chuté d'entrée au début de cette saison et il n'a pas pour l'instant retrouvé le top niveau, mais on espère qu'il sera là sur la Vuelta. Vuelta que découvrira aussi Stéphane Rossetto, hein, dont on parlait tout à l'heure. Il devrait prolonger à la Cofidis vu qu'il avait signé que pour un an, mais voilà. Et en tout cas, Blaise Cadry, on prendra de ses nouvelles. On referme la page championnat de France. Vous voulez rajouter quelque chose? Les filles, Claire, je suis sûr que tu as envie de parler des filles quand même.
c'était magnifique. Je sais pas si vous avez vu en plus le nombre de téléspectateurs, 850 000 je crois. Ça commence vraiment,
c'est gros chiffre,
à intéresser les gens et les amateurs de vélo. Ça c'est génial. Et puis évidemment ce qu'a fait Pauline, c'est formidable. C'était très beau. Fallait oser.
Voilà. Ouais, il fallait oser. Après, bon. Elle contre-montre, elle disait que le circuit n'était pas forcément taillé pour elle, mais après sur la course sur route, elle s'est bien rattrapée. C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'elle est d'une dimension quand même supérieure du reste du peloton féminin. Après c'est vrai que ça manque un petit peu de masse parce que chez les filles, c'est vrai que dès que ça attaque un petit peu, ça éclate rapidement. On se retrouve vite avec des pelotons qui sont très très petits. Ça manque un petit peu de nombre.
Ça manque de contrôle, mais c'est aussi ce qui manque, ces petits pelotons, ces éclatements. C'est peut-être ce qui manque aussi chez les garçons parfois. C'est ces courses un peu débridées, un peu folles. Donc c'est voilà. Ce qu'on a trouvé hier, parce qu'il n'y avait pas les oreillettes et tout, mais c'est vrai qu'on l'a pas toujours, quoi.
Du côté du cyclisme amateur, hein, de la course qui avait lieu avant les filles samedi matin, c'est encore de Sojasun Espoir qui a devancé tout le monde, c'est Clément Marie.
Oui, c'est pas peut-être pas forcément lui qu'on attendait, peut-être par rapport à certains coureurs qui étaient favoris. Maintenant, le championnat de France, c'est toujours une course particulière pour être bien placé et savoir flairer les bons coups. On attendait peut-être plus les coureurs du Vendu, justement, qui sont un petit peu passés à côté, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça.
C'était en tout cas un beau championnat de France cyclisme amateur. On va refermer la page championnat de France parce qu'on a beaucoup d'autres sujets à parler. Julien, tu voulais au niveau du cyclisme amateur ce week-end, non, rajouter quelque chose? On est déjà plongé sur le tour, c'est ça?
Mais le tour va commencer samedi. Non, il y a aussi, quand on parle de championnat de France, ce week-end, moi j'y serai aussi. Il y a les championnats de France, le trophée de France du jeune cycliste qui se déroule à Saint-Étienne-lès-Remiremont au pied de Steve Chenel, puisqu'il y aura une épreuve de cyclocross qui sera dessinée sur le parcours que lui a proposé.
Il sera peut-être.
Donc les championnats de France ne sont pas forcément terminés pour tout le monde.
Non, tu fais bien de le préciser. Et ça court un peu partout cet été. Clin d'œil également, Seb, à là où tu étais ce week-end, parce que tu représentais aussi Radio Vélo. Il va falloir que tu achètes des maillots et des casques et tout quand même. On achètera les chaussures à Max aussi, bref. Seb.
Exactement, mais il y avait une cyclosportive très réputée dans la région Midi-Pyrénées, dans le sud de la France, qui est la Riégeoise, donc qui a encore battu le record cette année pour fêter ses 20 ans, puisqu'il y avait plus de 4600 participants sur les trois parcours confondus. Et tous les résultats sont disponibles sur le site internet, bien entendu, mais Guillaume de Almeida de l'US Montauban gagne pour la deuxième fois.
Qu'on avait eu ici il y a quelques mois maintenant.
Exactement. Donc après, bon, il y avait beaucoup de coureurs de la région.
Tu as fait la même course que lui, toi, du coup?
Voilà, mais pas au même rythme.
Et qu'est-ce qu'il y avait comme col, par exemple?
Il y avait le col de la Corre que le Tour de France va emprunter cet été, le port de l'Hers que le Tour de France va également emprunter. Voilà, il y avait le col d'Agne également, donc et le col des Marousses.
Ah oui, c'est bon, on avait certains l'occasion de faire la ronde de l'Isard, donc non, c'est des bonnes Pyrénées. Les joueurs,
voilà, il y avait Mika ça. Aussi, t'as monté quelques cols, des bosses ce week-end, non?
Voilà, Côte de Servestis.
Ouais, du lourd. Oui.
Non, très belle organisation, comme d'habitude. Seul le temps n'était pas de la partie, puisque bon, on l'a fait dans le brouillard les trois quarts du temps.
Et finalement, c'est le seul moment où il n'a pas fait beau ce week-end.
Exactement.
Et pendant 15 jours, il va faire super beau. Non, Claire, tu n'y étais pas, toi, à la Riégeoise?
Non, mais il fait beau aussi en Picardie, hein, je peux vous rassurer.
Ah oui, c'est vrai que tu es au pays de Jimmy Casper. On va faire la coupure pub dans quelques instants. Juste le temps de vous mettre l'eau à la bouche avec ce dont on va parler dans la deuxième partie de Radio Vélo. Les favoris, les bouquins avec Philippe, hein, de quoi passer l'été. T'en as plein sous le coude, je vois. Hein.
Oui, j'ai plein de bouquins, plein de petites histoires sur le tour, je vous racontais ça.
Et puis le livre de Pierre Carré, Maillot à poids, 40 ans de bataille pour les sommets, les 40 ans du maillot à poids, on va en parler, les favoris, le concours de pronostics, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que Claire qui fait ça, et nous aussi, dans Radio Vélo, on fait des concours de pronostics, et puis vous pouvez réagir sur radiovélo.fr également, pour eh bien, nous poser peut-être vos questions pour le maillot jaune, pour le podium, pour le maillot, maillot vert. Il n'y a pas de maillot du meilleur français, par contre, hein. Ça n'existe pas.
Eh non, il n'y a pas de maillot du meilleur français. Pourtant, à chaque fois, dans les classements, on dit, tiens, le premier français, il est là.
Ouais, mais ça démontrerait une certaine infériorité aux autres s'il fallait s'attribuer un titre.
Et en parlant de supériorité aux autres, il me reste une minute, c'est ça, je viens boucler avant la coupure pub pour bien lancer les choses. En parlant de supériorité aux autres, il y en a un qui a été supérieur pendant très longtemps qui sera au départ de Muret, m'a-t-on dit, Seb.
Exactement. Nous avons Monsieur Lance Armstrong qui va revenir effectuer deux étapes du Tour de France un jour avant le Tour.
Donc là, il est sûr de ne pas faire la course, ouais.
On est sûr, oui, ça c'est sûr.
C'est pas un énième comeback.
Non,
hein.
Non, c'est pas un énième comeback. Il vient au profit de la lutte contre
le covicidose.
Le covicidose, exactement.
Une belle cause.
Exactement.
C'est un peu risqué quand même, non?
C'est un peu risqué, c'est vrai que tout le monde le voit pas d'un bon œil.
À suivre, on revient à Radio Vélo et sans Lens. Ne bougez pas, c'est en mode Tour de France.
C'est ta radio.
Pop,
rock,
sport.
C'est ta radio.
Pop,
rock,
sport.
Car la route tourne,
Rock.
Radio Vélo en mode spécial tour jusqu'à 21h, la dernière émission de l'année. Et après, si vous êtes sage, on reviendra peut-être un jour, Philippe.
Oui, et puis on reviendra sûrement, on sera sûrement à Muret pour le départ du Tour de France à Muret.
On y sera tous.
Voilà, on y sera tous. Et là, je vous raconter une petite histoire, effectivement, d'un disqualifié. On parlait de Lens tout à l'heure, mais un disqualifié du Tour. C'était un Muretain, il s'appelait Henri Gobin. Et le Tour 1903, il avait abandonné. Ça, c'est assez simple parce qu'il était épuisé. Mais surtout, le Tour 1906, eh bien, il avait été disqualifié parce que pendant l'étape Nancy-Dijon, il est bien. Il avait tout simplement pris le train. C'était interdit de prendre le train, donc il avait été disqualifié. Voilà, pas trop de chance pour ce coureur muretain. Effectivement, la ville de Clémardaire, la ville des avions, Muret, ben lui, il avait choisi le train pour se faire disqualifier.
Eh ben voilà, ça, c'est aussi ça la magie du Tour.
Il fallait le dire.
Fallait le dire. Bon, on est dans les choses sérieuses. Alors, on a déjà parlé du parcours, hein, ce parcours avec les trois arrivées au sommet dans les Pyrénées, les trois arrivées au sommet dans les Alpes, le contre-la-montre inaugural de 14 bornes, le contre-la-montre par équipe de 28 bornes avec la petite côte du côté de Plumelec, l'arrivée au mur de Huy, le mur de Bretagne, Mende, la montée Jalabert par chez nous, Rodez, chez Alex Géniès, qui on l'espère sera à 100% de ses capacités, on lui fait un petit clin d'œil, un peu de pavé, bref, il y a tout ce qu'il faut là, il y a tous les favoris. L'an dernier, il manquait Quintana qui avait fait le Giro et bien lui en a pris vu qu'il a remporté l'épreuve. Mais là, il y a Nibali, le vainqueur sortant, il y a Froome, l'épouvantail d'il y a deux ans, il y a Contador qui a gagné le Giro, la route du Sud qui a fond les manettes, il y a tous les jeunes qui arrivent, il y a les Français, ils sont tous là.
Manette, Contador, je suis pas si sûr que toi qu'il a fond la manette.
Il n'est pas déjà à fond là,
il
va avoir du mal la troisième semaine là, non. Et puis il y a son équipe avec des noms ronflants, mais des années 90, là, ils sont plus au niveau, les mecs. Bref, Seb.
Et il y a un élément qu'il faudra prendre en compte aussi cette année, ça sera certainement la canicule aussi, parce qu'on parle d'une vague de chaleur qui arrive pour cette semaine, qui va continuer la semaine prochaine.
Ils sont aux Pays-Bas.
Ils sont aux Pays-Bas, mais bon, ils vont descendre quand même, et plus vite qu'on ne le pense. Donc, ils vont arriver très vite, et il faudra le prendre en compte, parce que dans les cols pyrénéens, moi j'ai pu le voir samedi, dès qu'on a eu un rayon de soleil, ça cognait quand même assez fort. Donc, ils vont rechercher l'ombre, ils vont rechercher l'eau.
Il va rechercher l'eau aussi. Philippe ? Non, niveau
des
favoris.
Mais l'eau, des fois, quelquefois, ça fait mal aussi. Se souvient, le Tour va passer à Pau cette année. Et se souvient, d'ailleurs, Pau, je crois qu'il y a eu 66 arrivées à Pau. Je crois que c'est une ville qui a accueilli le plus de Tour de France. Et se souvient que le Tour 1980, effectivement, la pluie n'avait pas aidé bien Bernard Hinault. Mais sa tendinite, il avait abandonné à Pau. Je me rappelle, la presse avait titré 22h30, Hinault quitte le Tour. Donc voilà, Pau qui retrouvera le Tour cette année.
Et oui, moi j'en ai connu d'autres qui quittaient le Tour la nuit dans les années 2000, mais c'était un peu moins joyeux. Au niveau donc des favoris, qu'est-ce que vous voulez dire? Les sélections déjà, voilà, parce que les sélections n'arrêtent pas de tomber les unes après les autres. Il y a plusieurs stratégies. Il y a ceux qui ont donné la compo depuis plus d'une semaine. Bon, ceux-là, pas de soucis, quoi. Ils ont dit, on a ces mecs-là, on va les mettre autour. Qu'ils soient champions de leur pays ou pas, rien à faire. On a notre compo.
Ben, est-ce que tu dis, voilà, moi je vais préparer des coureurs pour faire le tour et je sais à l'avance qui je vais réparer, ou tu dis, ben voilà, moi j'ai des coureurs, ben lui, je vais prendre lui s'il marche là. Je pense que c'est plus raisonnable de préparer une équipe pour le tour,
oui.
Et de forcément de les faire monter en pression plutôt que. Enfin, moi je le ferais comme ça. Et souviens-toi, quand oui. On avait eu Jean-Marc Marino qui nous disait qu'à la Calendale, eux, ils faisaient comme ça.
Ouais.
Ils disaient, on va te mettre pour le tour, tu vas te préparer, on s'en fiche que jusqu'à ce que tu vas faire avant, tu marches pas. Ce qu'on veut, c'est qu'au tour, pour notre leader, tu sois opérationnel. Et nous, on fait différent, nous.
Alors justement, par rapport à la Calendale, je rebondis dessus, je viens, parce que j'ai...
Pas trop.
Mais j'ai lu justement qu'ils arrivaient avec trois leaders cette année. Non pas un, mais trois leaders.
Mais est-ce que le mot leader est un juste mot?
Bah, c'est quand même quand on dit Andrew Talansky, Dan Martin et Ryder Hegdahl, je pense que.
Est-ce qu'il y en a un qui peut voter sur le podium du tour?
Ryder Hegdahl, je mettrais bien une piécette dessus quand même.
Ça c'est du gros pari, là il y a de l'argent à se faire.
Si les autres roulent pour lui, pourquoi pas, mais s'ils jouent chacun leur carte, c'est voilà. Compliqué.
Non, je sais pas. Après, du côté, c'est vrai que l'équipe Etix Quickstep, ça a été annoncé. Il y a belle lurette avec Cavendish qui est là, avec toute l'équipe qui va tourner. Le premier tour de Stibar, hein, tiens, j'ai noté Julien Kwiatkowski, le champion du monde, Rigoberto Urán qui s'est loupé sur le Giro. Voilà, du côté de Giant, il y a pas Kittel. Ça, c'est quand même un sacré. C'est quand même le meilleur sprinter du monde qui n'est pas là, qui est en train de nous faire une saison blanche après la saison exceptionnelle de l'an passé. Claire, t'as forcément un avis là-dessus?
Je m'en doutais que tu allais visiblement m'interroger là-dessus. Ouais, non, mais c'est surtout difficile, à mon avis, pour lui, à l'heure où la télévision allemande a décidé de retransmettre le tour en direct à nouveau. Les Allemands vont avoir envie de se montrer. Il l'a dit, hein, que c'était un des pires moments de sa vie en ce moment, et j'en doute pas. Voilà. Après, il y a John Degenkolb qui va se faire un plaisir de marcher sur les étapes pavées.
Ouais,
bah, c'est clair. Sprint,
hein, pourquoi pas.
Il va essayer de gagner une étape, mais c'est vrai que Degenkolb a déjà beaucoup couru et beaucoup gagné cette saison, donc forcément, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais tant mieux en même temps pour Warren Barguil, j'en reparlerai tout à l'heure dans mes pronostics. Mais après oui, chez les Allemands, mais c'est Emmanuel Buschmann, c'est ça le nouveau champion d'Allemagne, Julien? Non, vous savez même pas qui est champion d'Allemagne. Bon, dans l'équipe Bora, ouais, je crois que c'est
lui. Dominique Nerz à suivre, surtout dans l'équipe Bora.
Dominique Nerz aussi, c'est vrai que c'est une des équipes que l'on va découvrir. L'autre équipe que le public français va découvrir, c'est MTN Kubica, c'est celle qui avait remporté Milan Sanremo avec Gerald Cholet il y a de cela deux saisons. Alors certes, c'est une équipe sud-africaine, mais il n'y a pas que des sud-africains. Il y a Boston Hagen, le Norvégien, il y a Steve Cummins, l'ancien de Sky, il y a Tyler Farrar, le sprinter, et puis il y a quelques sud-africains quand même, avec Van Rensburg, avec un autre Van Rensburg, oui justement, avec Kudus, avec Menges, avec Serge Powell de Belz, et puis Daniel Tecleimanot, dont on parle depuis si longtemps comme le meilleur coureur africain à découvrir. C'est quand même, je sais pas Claire, si tu avais suivi, ça fait déjà quelques années qu'on parle de Tecleimanot et ça y est, on va le voir sur le tour.
Oui, puis il a fait un beau début de saison, donc ça c'est encourageant.
Un beau Dauphiné, je crois aussi, ouais.
Exactement. Et du coup, pour cette équipe, c'est important d'avoir quelqu'un qui peut se montrer au général, ou en tout cas essayer de suivre les meilleurs dans la montagne. Je pense que ça va être l'objectif. Ouais.
Philippe.
Oui, juste un petit mot sur les Africains sur le tour. Je me souviens d'avoir interviewé Jean Bobet, puisque le tour
il
cette
était
année,
donc africain, Jean Bobet.
Non, voilà, c'était le frère du grand Louison Bobet. Mais effectivement, puisque le tour va passer à Saint-Mel-le-Grand, au musée Louison Bobet cette année, il m'avait dit, effectivement, l'avenir du cyclisme, je vois bien par les Africains, effectivement. C'est de là que viendra l'avenir du cyclisme.
Alors, il n'y a pas de raison, des sports d'endurance, voilà. Marathon, tout ça, ils sont loin devant. Il suffit que, voilà, la technique arrive un petit peu, bon, ça coûte cher, hein, c'est pas forcément évident, mais quand ils vont en avoir les possibilités, ça.
Et les infrastructures, effectivement.
Et il y a le centre mondial du cyclisme qui aide à ça. Chris Froome, le Kenyan blanc, eh ben, il sera là chez Sky avec une surpuissante équipe sur le papier. Geraint Thomas, attention à lui, on ne connaît plus ses limites. Richie Porte, on connaît son motorhome. Attention à Nicolas Roche également, l'Irlandais Stannard, Léopold Conny qui avait fait un beau tour l'an dernier, qui a déjà fait le Giro, Wout Poels aussi, Luke Rowe, Peter Kinnaud. Non, il y a une grosse équipe du côté de Sky, mais de là à croire en eux et à savoir ce qu'ils vont faire, j'ai du mal à arriver à lire ce qui va se passer chez Sky cet été.
Le problème de la Sky, c'est l'organisation, justement. Je pense qu'il va pas falloir se désorganiser. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2013, quand il y avait eu la bordure, c'était clairement un problème de désorganisation à ce moment-là. Donc, quand Contador en avait profité. Donc, je pense que ça va vraiment être la problématique première de cette équipe.
Beaucoup d'individualité, en tout cas.
Et qui va prendre la course en main dans la première semaine? Parce que chaque année, il y a vraiment un favori quand même qui se dégage. Son équipe, généralement, essaie de boucler un petit peu quand il y a des échappés qui partent un peu loin. Cette année, vous voyez qui va prendre la course en main?
Moi, je pense que l'équipe de Contador va prendre la course en main rapidement, aidée par les Movistar, même si Valverde donc prendra une bordure le combien déjà, deux jours. Non, plus sérieusement, je vois bien... Movistar, ils vont être rapidement amenés à devoir prendre ce rôle en main, mais si tu demandes à n'importe qui c'est qui le patron du cyclisme mondial actuellement, le plus charismatique, le plus connu, c'est sûrement Contador, parce que même quand Froome était plus fort que lui, Contador, ça a resté quelque chose.
Il s'affiche toujours, sur le Tour de France comme un favori, quoi. Donc l'image de Contador et l'image du Tour de France sont totalement liées.
C'est le patron. Du côté de Lampre, il y aura Rui Costafaria, et bien qui aura une équipe dévouée à son compte. Chez Trek, toujours dans les vieux qu'on fait les meilleurs. Zubeldia est toujours là, De Volder, Canciara. Il n'y a plus les Schleck, hein, et Irizar quand même. Vous savez, celui qui était censé avoir gagné une étape quand Backlund s'est imposé il y a deux ans. Arredondo, le Colombien. Bob Jungels, Mollema, c'est vrai qu'il s'est émancipé de Belkin. On verra ce qu'il arrive à faire. Du côté de la Movistar, je vous l'ai dit, il y a l'aigle à deux têtes avec Quintana et Valverde. Quintana, bon, ça a été vendu à l'émission précédente, donc vous le savez, c'est mon favori pour ce Tour de France. Et son plus gros souci, pour moi, ça va être Valverde. Parce qu'à chaque fois qu'il y a Valverde dans son équipe, c'est compliqué pour Quintana.
Et son équipe, après, est-ce que son équipe va avoir justement la puissance de tenir 3 semaines, de vouloir contrôler? On ne met pas en doute les qualités de Nairo Quintana ni de Valverde, mais je pense que l'équipe va être un peu isolée quand même.
Ils vont faire un très beau contre-la-montre par équipe, je pense, parce qu'il y a pas mal de rouleurs avec les Castroveiro, les Dowsett,
Mallory
qui devrait même le premier jour marquer sacrément son territoire. Du côté de la Lotto Soudal, pour le général, je vois pas grand monde. Il y a notre ami Tony Galopin quand même qui devrait faire des beaux trucs. Chez Lotto, version ex-Belkin, ex-Rabobank pour ceux qui suivent depuis longtemps, il y a Gesink, il y a Kelderman, il y a Krujvic, il y a vraiment du beau monde. Chez Katucha, il y a Purito Rodriguez, mais il n'y a pas son copain Moreno. Il y a Christophe quand même qui est là pour les sprints et le maillot vert. Du côté de I Am Cycling, il y aura Mathias Franck le Suisse, puis il y aura les Français, on l'a dit, Chavanel, Coppel. Je vais pas tous vous les faire, hein, mais du côté de Giant, on a parlé de certains. Il faudra parler de Dumoulin pour le premier jour, hein. Il sera l'un des favoris pour le contre-la-montre inaugural. Et puis, comment ne pas parler enfin des équipes françaises avec je finis quand même à les étrangères avec Astana et Nibali qui aura une garde rapprochée de très très haut niveau, hein. Il veut vraiment garder son titre, l'Italien qui s'était imposé l'an dernier. Et puis du côté de d'AG2R, du côté de Cofidis, du côté de FDJ et du côté de Bretagne Séchée, on en parle maintenant. Les équipes françaises, qu'est-ce qu'on en attend?
Ben, on attend que les Français se montrent ce qu'ils sont capables de faire comme chaque année, quoi. On veut les voir devant, on veut les voir briller, aller remporter de belles étapes, et on veut les voir aussi en même temps sur le podium, et on voudrait voir aussi un Français gagner le Tour, même si on sait que ça va être compliqué. On y croit parce qu'on sait qu'on a des Français qui arrivent en puissance et qui sont là, et donc on a envie qu'ils arrivent.
Et quand on regarde les Français, on se dit on veut qu'ils gagnent le Tour, Mika,
ouais,
rien d'autre.
Si, justement,
les étapes,
les Français se diversifient, je trouve. Il y a une époque, il y a une dizaine d'années, où on se disait, bon, c'est des baroudeurs, ils vont peut-être claquer une étape, et puis il n'y a personne qui peut faire autre chose. Là, maintenant, on a des sprinteurs avec Barguil, avec peut-être Nasser Boigny, on verra. On a des grimpeurs avec Bardet, Pinot, on a des coureurs qui peuvent jouer le général, qui peuvent claquer des étapes et qui peuvent sprinter. Donc c'est vraiment intéressant. Et bon, une diversification qui fait du bien au vélo français, puisqu'on ne les attendra pas juste sur des étapes mi-montagne, mi-plat, quoi.
Oui, et puis on a une équipe Europe Car aussi qui va se montrer forcément pendant les 3 semaines. Donc je pense qu'on verra du vert aussi dans beaucoup d'échappées. Après, justement, à vouloir trop jouer la sécurité et l'avenir, est-ce qu'ils vont pas oublier le classement général qui est probable avec un Pierre Roland, avec un Romain Sicard pour l'amener aussi en montagne, avec un Thomas Vaucler qui va certainement être dans pas mal de coups. Voilà, exactement. Et puis un Brian Cocker qui va certainement assurer quelques sprints. Donc oui, je pense que Europe Car va jouer un rôle assez important durant ce Tour de France. Après, il faut pas oublier AG2R aussi qui va vouloir venir pour faire aussi bien que l'an dernier. Je pense pas que Jean-Christophe Perrault puisse réitérer l'exploit qu'il avait fait l'an dernier. Je pense que ça va être compliqué. Après, bon, on sait pas les circonstances de course, hein, mais je pense que Romain Bardet, par contre, a préparé ce tour et arrive en forme.
Ouais, ça va être compliqué quand même de confirmer au niveau du général par rapport à l'année dernière. Il faut pas oublier que les deux favoris n'étaient pas là, donc on finit 2-3, on aurait fini 4-5 au mieux, et on en aurait beaucoup moins parlé. Donc
la course aurait été différente. La course aurait été différente.
Tout à fait.
Faut voir. Claire, ton avis, qu'est-ce que t'attends des Français?
Moi, j'ai plutôt une question par rapport au duel Bardet-Pinot. C'est vrai qu'on met tu regardes la presse, l'ensemble de la presse, tout le monde met Pinot devant Bardet. Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça, monsieur.
Bah moi je suis pas d'accord. Je mets Bardet devant Pinot de par l'équipe qui va être à ses côtés, de par l'expérience également. Je pense que la FDJ fait une grosse erreur. Déjà avait fait une erreur en annonçant sa compo avant les championnats de France, parce que je vous rappelle qu'Anthony Roux a failli les gagner, il a fait deuxième. J'ai pas eu le temps de le tweeter parce qu'il restait plus que 300 mètres, mais je me suis dit, mon raisonnement de la semaine dernière, tiens, oui, et puis je pense qu'ils amènent trop de monde pour le sprint, hein, avec Sébastien Chavanel, avec William Bonnet qui seront autour d'Arnaud Démare. Je sais pas, je me dis que Pinot, bon, certes, il n'a pas besoin d'être énormément épaulé non plus, hein, mais je me dis que du côté d'AG2R la mondiale, il y a quand même une belle expérience avec un Jean-Christophe Pirot, j'en suis persuadé, va tout faire pour Romain Bardet. Parce que l'an dernier, quand même, Bardet, il a su un peu jouer pour Pinot sur la fin du Tour de France. Et puis, il y a vraiment une belle équipe avec le Luxembourgeois Gastouer, avec Chirel pour les pieds de bosse, avec Backlands, avec Riblon, avec Viernoz
qui marche bien,
qui est au top, et Van Sumeren sur la plaine. Il y a tout pour avoir quand même une grosse équipe. Reste à savoir ce que Bardet veut.
Il a une grosse équipe toujours pour être à ses côtés et l'aider dans la montagne, alors que c'est vrai que la FDJ plus misée pour Arnaud Démare, ça peut se comprendre aussi, mais bon, moi je te rejoins dans le sens où je vois plus Bardet que Pinot.
Bon, contredisez-moi un peu, Seb, non?
Malheureusement, je pense aussi la même chose. Je pense que on peut pas avoir une équipe qui s'éparpille à jouer les sprints, à jouer les étapes de montagne. C'est pas possible. Même si Alexandre Genies, qui a fait un très bon Giro, sera présent, mais bon, il me semble pas en aussi grande forme que sur le Giro. Donc bon,
déjà, il espère bien récupérer de sa chute subie lors du contre-la-montre, hein, des championnats de France où il a abandonné l'ami Alex.
Est-ce que Claire, on a réussi à faire pencher la balance de ce que tu pouvais penser toi?
Est-ce qu'on a parlé sans langue de bois, Claire?
moi je suis d'accord avec vous. Je pense que Bardet peut être mieux placé que Thibaut Pinot au final.
Est-ce qu'il y aura un Français sur le podium du Tour de France 2015? Tour de table.
Claire?
Non.
Cache.
Non, mais évidemment que c'est possible, bien sûr. Après, je pense qu'eux-mêmes le disent, il y a une différence, à mon avis, entre les quatre favoris annoncés et puis les Français encore cette année. Après, ils sont jeunes, hein, nos Français, il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr.
Il y a beaucoup moins de chronos, donc on est quand même un petit peu avantagé, je pense. Et s'il y a deux favoris qui craquent un peu, il y a moyen d'être troisième.
Je suis aussi de cet avis. Donc moi, je vois bien Bardet sur la troisième marche.
Carrément, ça, c'est ambitieux. Ouais.
Moi, si les circonstances de course,
ouais, avec les si, vous voilà, voyez pas les gars, avec les si, on refait le monde avec les si.
Non, je dirais pas. Sur un tour,
il y a toujours des circonstances de course. Ouais, il y a des pavés.
La première semaine va déjà être très difficile à passer. Bien sûr qu'il peut se passer plein de choses. Donc, bien sûr, à la fin de la première semaine, on pourra dire ah ouais, mais bon.
Ah ben, c'est facile aussi de donner le pronostic à la fin de la première semaine.
Exactement.
On va remercier Claire parce que il faut faire la rétro. Après, on a notre ami Pierre Carré et puis on donnera nos pronos. Claire, je te conseille de rester jusqu'à la fin de l'émission et écouter nos pronos quand même. Ça vaut le détour, hein.
Je voulais, c'était moi qui voulais vous remercier surtout pour cette année et demie passée avec vous parce que ça a été génial d'échanger sur le vélo et malgré tout ça a été une belle part de confiance à nouveau en moi, donc merci à vous.
Et bien merci à toi Claire et puis rendez-vous à la rentrée, on se dira où, quand, comment pour la suite des aventures de Radio Vélo.
Avec plaisir, bonne chance à Radio Vélo.
Merci Claire,
à bientôt.
Merci, Philippe, c'est l'heure de la rétro pendant que je téléphone à notre ami Pierre Carré.
Oui, bon, on va faire la rétro. Je vais vous parler un petit peu du Tour 1924 parce qu'il avait été gagné par Bottecchia, donc un Italien qui avait gagné par exemple la première étape Paris-Le Havre, 381 km, et qui avait gardé donc le maillot. Et il avait le regagné en 1925, Bottecchia, l'Italien Bottecchia. Donc on se demande si Nibali, cette année, il a gagné l'an dernier, il va le regagner encore une année après. Ça, même le grand Fossovo-Coppi, je croyais, n'était pas arrivé, donc ça serait un grand exploit. Et Pellissier, un des Pellissiers, disait de Bottecchia, quand on le voit marcher, il a la dégaine d'un pauvre paysan. Par contre, quand il est sur le vélo, quel talent. Et voilà, Pellissier d'ailleurs, qui avait abandonné dans ce tour 1924, à Coutances, qui avait un petit peu blagué à Albert Londres, avait exagéré un petit peu les conditions de coureur. Et c'est pourquoi qu'Albert Londres avait écrit le fameux article des forçats de la route, effectivement. Mais Pélissien avait quand même un petit peu rajouté sur les conditions des coureurs cette année-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Ce Tour 1924, pour vous rappeler qu'un Italien peut encore en gagner cette année. Mais est-ce qu'il va le faire?
Est-ce qu'il est dans ses meilleurs auspices ou est-ce que ça sera un inconnu qui va sortir des bois, perché par là et qui va nous surprendre, hein, Nico? Oui.
Hop, je rallume le micro. Merci Philippe en tout cas pour cette rétro. Et puis nous allons passer à la présentation d'un premier livre sur le cyclisme. Et pour cela, nous avons Pierre Carré au téléphone, le fondateur de Direct Vélo. Pierre, est-ce que tu nous entends?
Je vous entends. Bonsoir à tous.
Bonsoir et merci bonsoir. D'être avec nous pendant quelques minutes pour que l'on parle de ton dernier ouvrage, hein, parce que maintenant on parle de dernier ouvrage vu que tu commences à en avoir fait quelques-uns. Maillot à poids, 40 ans de bataille pour les sommets aux éditions Direct Vélo, un très beau livre qu'on a fait tourner et bien autour de la table dans les mains des chroniqueurs Radio Vélo. Et puis on a également pour toi, Pierre, fait le tour des librairies toulousaines. Vérifier s'il était bien en place, hein, Philippe.
Oui, effectivement, j'ai fait le tour de toutes les librairies toulousaines et il était bien en place et en quantité égale que tous les grosses grands tirages qui sont sortis, parce qu'il y a pas mal de livres qui sont sortis sur le cyclisme, évidemment, pour le Tour de France. Et ça m'a fait plaisir de voir ce livre en bonne quantité, en bonne qualité sur les rayons, parce que c'est un livre de qualité. Déjà, la présentation du livre, effectivement, le papier est beau, la couverture est solide. C'est important quand on garde un livre longtemps comme moi qu'il soit solide. Et surtout, il y a d'excellentes photos et des photos qu'on n'a pas vues ailleurs. Moi, j'achète pratiquement tous les livres qui sortent sur le cyclisme, mais là, effectivement, j'ai vu des photos que je n'avais jamais vues. Voilà, un très très bon bouquin, un texte agréable à lire. Allez, un seul petit défaut, un seul petit bémol, certaines photos ne sont pas légendées. Il n'y a pas la légende de ces photos. On se demande un petit peu, même au moins le spécialiste, de quelle année, date, qui sait. Mais c'est le seul petit défaut de ce bouquin qui a vraiment
c'est
beaucoup.
C'est vraiment pour en trouver.
Sinon, c'était bien vendu.
C'est bien vendu quand même, Pierre.
Bah, c'est bien vendu, merci à vous. Non, c'est un peu le livre Steven Tronet, quoi. C'est un livre qui est fait par les éditions Direct Vélo, des éditions qui proposent chaque année le livre Cycliste Amateur, la rétro de la saison des coureurs amateurs. Et puis il y a eu cette biographie de Romain Bardet, Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault l'an dernier. Là, on parle pas du futur mais du passé, c'est-à-dire donc d'un maillot qui est très populaire, peut-être même encore plus populaire que le maillot jaune, qui fête cette année ses 40 ans. Alors bien sûr, un ouvrage comme ça s'imposait. C'est le seul livre qui parle du maillot à pois et exclusivement du maillot à pois. Et en fait, à travers ce livre, on retrouve toute l'histoire des grimpeurs, de la montagne, de ce que les grimpeurs ont de meilleur, de plus beau, de fascinant, de troublant, d'inquiétant, de chimique quand on commence à parler de dopage aussi, parce que je pense qu'il faut être vraiment très très honnête quand on parle d'histoire. Et moi j'ai appris plein de choses en me documentant et en écrivant ce livre, hein, avec l'aide notamment de Dominique Turgis, qui est un extraordinaire historien, membre de Direct Vélo. Et j'espère que quand vous le lisez, vous apprenez tout autant de choses et vous souriez, vous êtes choqué. C'est l'histoire.
Et c'est vraiment très bien écrit au niveau de la romance, et c'est ça que j'aime bien dans les livres de vélo, et notamment le petit chapitre sur Santiago Botero, hein, qui me faisait bien rigoler. Mais non, c'est vraiment très très décrit, et c'est ça qui est sympa aussi, Philippe.
Oui, c'est un excellent bouquin, je le redis. D'ailleurs, moi, je l'ai acheté personnellement alors que je l'avais vu gratuitement ici, vous voyez, donc je l'ai mis dans ma collection. Voilà. Puis
petite question pour Pierre. Comment s'est venue cette idée donc de se lancer sur ce sujet des maillots à pois?
Bon, j'ai une passion pour l'histoire en général, pour le cyclisme aussi, ça c'est pas un secret. Conjuguer les deux, c'est toujours intéressant. Et des livres généralistes sur le Tour de France, il en existe déjà beaucoup. On peut aborder des thématiques particulières. On prend vraiment un sujet comme ça, qui a l'air fermé, et puis en fait, on l'ouvre au maximum. On le travaille en profondeur, on creuse, et on sort tout ce qu'on peut. Alors, au départ, j'ai vraiment fouillé toutes les archives de presse sur Carentan, avec l'aide de Dominique Turgis, dont je vous ai parlé. J'ai procédé à une trentaine d'entretiens avec des vainqueurs, des porteurs du maillot à pois. Ça va de Richard Virenque, ou le tout premier, Lucien Van Impe, jusqu'à des porteurs inattendus parfois, comme le sprinteur allemand Marcel Wüst. On a Chardot, alors on a des grands, grands maillots à pois célèbres, on en a qui sont un petit peu oubliés parce qu'il y a une histoire qui est assez dense. Et le but, c'était de donner une photographie du Tour, parce que pour moi, le maillot à pois, c'est le baromètre du Tour. Quand le Tour de France va bien, il a un maillot à pois qui est populaire. Les années un peu ternes, le maillot à pois peut être aussi complètement dans l'ombre. Et, mais enfin, l'inverse est vrai aussi, hein. C'est-à-dire que le maillot à pois, c'est lui qui vient déstabiliser le maillot jaune. C'est lui qui le met en difficulté. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est le petit qui vient chatouiller le grand. Donc il y a toute une histoire humaine derrière le maillot à pois.
Julien,
Philippe.
Et oui, le maillot à pois qui a été créé en 1975, c'est d'ailleurs Lucien Van Lippe qui l'a gagné cette année-là. Et pour te confirmer ce que tu dis, l'année 1976, eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup de favoris dans le Tour, Thévenet, Merckx et tout ça. Ils se sont tous écroulés, ils ont perdu le Tour. Et c'est celui qui avait eu le maillot à pois en 1975 qui a gagné d'ailleurs le Tour 1976, Lucien Van Lippe, qui était d'ailleurs coaché par un grand Cyril Guimard.
C'est vrai, moi je voulais. C'est vrai que le maillot à pois aujourd'hui, on va souvent le chercher de loin. Quand je dis qu'on va la chercher de loin, c'est que souvent on s'en va dans des échappées au long cours où on part le matin s'échapper et puis aller ramasser des points. Et c'est peut-être pas forcément là qu'on est le meilleur grimpeur, la différence du maillot vert du meilleur sprinter. Là c'est quand on est premier au sprint qu'on ramasse des points et qu'on a le maillot vert. T'en penses quoi, Pierre?
Regarde, le maillot vert, il a un petit peu le même problème, parce que quand Peter Sagan le remporte et qu'on voit que Marcel Kittel lui est nettement supérieur, on peut se dire que le maillot vert, c'est finalement le maillot de la régularité. Le maillot à pois, c'est peut-être le maillot de la régularité dans la montagne. Au fond, qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que c'est pour vous, un grand grimpeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire une échappée avec quatre cols? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de sprinter dans le dernier kilomètre des cols pour aller chercher les points, et donc en restant dans le groupe maillot jaune? Est-ce que c'est quelqu'un qui va se battre sur les cols, mais aussi sur les petites côtes? En fait, on retrouve toutes ces catégories de coureurs. Il y a des vainqueurs du maillot à pois qui ne sont pas des purs grimpeurs. De même qu'il y a des très grands grimpeurs, comme Marco Pantani, on l'explique dans le livre, qui n'ont pas jamais gagné ce maillot à pois. Donc finalement, le maillot à pois, c'est vraiment une construction. Et ASO, les organisateurs du Tour de France, ont toujours eu cette difficulté de barème qui a beaucoup changé parce qu'ils voulaient finalement avantager ou désavantager tel ou tel coureur. Et la formule, ils n'ont jamais trouvé la formule parfaite. Donc il faut s'imaginer un maillot qui change, qui ne consacre pas toujours le meilleur, mais qui consacre en général des coureurs qui sont vraiment intéressants par leur parcours.
Bon, à découvrir donc cet été dans toutes les bonnes librairies, maillot à pois, les 40 ans du maillot à pois. En plus, c'est l'anniversaire, pas facile d'ailleurs de le pronostiquer. On va donner nos petits pronostics pour le Tour de France dans quelques minutes. Par rapport à ce livre, tu voulais rajouter quelque chose, Pierre?
Ce qui serait formidable pour boucler la boucle, c'est que un maillot à pois devienne maillot jaune cette année. C'est très rare en réalité. La plupart des maillots à pois qui ont tenté de gagner le Tour de France se sont écroulés, ont été pris par la patrouille, parce que parfois ils ont vraiment exagéré avec le dopage. Il y a une espèce de tragédie finalement de ces petits grimpeurs qui ont voulu devenir grands et vainqueurs du Tour. Le seul en réalité qui a vraiment réussi, c'était Lucien Van Impe, le premier, on en parlait tout à l'heure. Et pourquoi pas cette année un porteur du maillot à pois, vainqueur du maillot à pois, donc Nairo Quintana, ouais, qui s'imposerait et prendrait le maillot jaune.
C'est tout à fait possible, en tout cas, c'est le sentiment ici dans ce studio. Bah,
le profil s'y prête, c'est vrai qu'on n'a pas des contrats moins de 50 km, donc
Philippe, très vite.
Oui, juste très vite. Le Tour cette année va se passer dans l'Alpe d'Huez. Effectivement, le maillot à pois se jouera pas dans l'Alpe d'Huez. Un petit souvenir de 1952, la première année où l'Alpe d'Huez a été passée, c'est Fausto Coppi qui passait en tête. Et Max Favalelli, on le connaît plutôt pour la littérature, avait dit, on m'avait dit que la route était montée, mais quand je vois Fausto Coppi, je m'aperçois que la route est plane. Voilà. Donc, quand on voit les grands grimpeurs, on a l'impression que la route est plane, tellement ils grimpent vite. C'est peut-être l'occasion, ce qu'on verra, pour le maillot à pois cette année. On verra.
Pierre, un petit mot peut-être pour terminer sur toi, ce que tu attends de ce Tour de France, que je crois tu vas suivre en plus de l'intérieur pour un journal, c'est ça?
Voilà, je serai sous le terrain pendant 3 semaines avec le journal Libération, pour le journal Libération, avec un autre collègue qui s'appelle Sylvain Mouillard. Et il y aura beaucoup d'articles écrits sur le journal papier, sur l'édition numérique aussi, le web. Ça serait formidable qu'on ait un Tour de France aussi plein de rebondissements que l'année dernière, et qui fasse émerger des figures aussi sympathiques que l'année dernière. À suivre
en tout cas. On va suivre tout ça avec intérêt, et donc dans Libération aussi. Merci d'être passé nous faire un petit coucou dans Radio Vélo, Pierre, et puis bravo encore pour ce très bon livre qui plaira forcément à tous les amateurs de cyclisme.
Merci à vous et bonne lecture.
Merci, à bientôt.
Merci, ciao.
À bientôt. C'était donc Pierre Carré dans Radio Vélo. Julien?
Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, il le disait aussi pour les maillots verts, je reviens pour l'histoire des points. C'est vrai qu'on attend d'un maillot du meilleur grimpeur, que ce soit celui qui était le meilleur. Mais après, c'est l'accumulation de points qui fera qu'on est désigné meilleur grimpeur. C'est comme ça.
Alors justement, on peut y venir là dans le sujet, les pronostics. On va commencer par le plus dur. Le maillot de meilleur grimpeur, c'est quasiment impronosticable, messieurs.
Cette année, là, avec beaucoup d'arrivées au sommet, je pense que ça double toujours les points, comme les années d'avant. Il y a quand même des chances que ce soit un favori qui l'emporte. Donc, alors, un Contador, un Quintana. Quintana qui prend les points, moi je vois pas trop remporter le tour, donc ça irait bien, ça répartirait les forces.
Pour toi, ce serait Quintana, donc meilleur grimpeur.
Qui n'auront pas su dire non, nous on veut pas des gagnants.
Qui alors? Qui?
Une pièce donc sur Quintana qui a 6 contre 1 actuellement, si tu veux jouer
le coup.
Comme meilleur grimpeur. On nous propose les cotes de Roland, de Froome, de Contador, de Rodriguez, d'Arredondo, de Pinot, de Machka, etc. De Menges, ce serait dalle. Messieurs, une cote?
Mais moi j'irais Quintana aussi, surtout que l'avant-dernière étape se finit à l'Alpe d'Huez, sur une étape qui est quand même assez courte, parce que de mémoire elle fait 110 km, donc ça va être très nerveux. Effectivement, je pense qu'un grimpeur va essayer de tirer son épingle.
Quintana, meilleur grimpeur pour toi aussi, Philippe?
Tout à fait.
Tout à fait. Julien, moi je vais mettre une pièce sur Warren Barguil. Meilleur grimpeur, je le vois être capable de prendre les points là où il le faut, peut-être de faire une ou deux grosses étapes de montagne, et ça pourrait suffire. Ça serait quand même une sensation. Il est à 21 contre 1.
Pourquoi pas un coureur de chez AG2R qui viendrait un petit peu?
Et pourquoi pas, ça c'est le maillot de la popularité, c'est peut-être ce qui leur manque. Bardet, il est à 29 contre 1 par exemple, ça peut...
Ça rapporte sous, en tout cas.
Ça peut. Du côté du maillot vert, Pierre l'a encore dit, c'est vrai que Sagan l'a remporté ces dernières années. C'est d'ailleurs le favori des bookmakers. Il est à 1,60, je crois seulement. Mais il y a quand même d'autres sprinteurs. Il y a Cavendish, Degen Kolb, Christophe, Matthews, Boigny, Coquart, Greipel, etc., etc. Moi, je mise sur Christophe à 4 contre 1.
Alors,
ouais, sur la régularité. Pourquoi pas?
Sagan, c'est 1,85. Ouais.
Je vais dire Sagan. Ouais.
Sagan.
Je pense que c'est quand même un tour qui est assez, qui est très montagneux. De tous les sprinters, je pense que c'est lui qui va le mieux passer l'école.
Et pourquoi pas une année où le maillot vert arrive sur un grimpeur, un favori du tour qui gagne beaucoup d'étapes, hein, le prologue, pourquoi pas, un Contador. On sait jamais.
Pas facile à lire. Julien, très vite.
Degen Kolb.
Degen Kolb pour toi, c'est à 11 contre 1, Philippe. Ça gagne en tout cas. Du côté du maillot de meilleur jeune, Quintana, si on le voit à peu près gagner le tour, il peut être meilleur jeune. Hein. 1,47 seulement. Après, vous avez Pinot à 5, Bardet à 8, Kelderman à 15, Barguil à 21. Après, il y a aussi un certain Simoniet qui est pas mal du tout à 23 contre 1. Kwiatkowski, le champion du monde, etc. etc. Il y a aussi Sepulveda qui est encore meilleur jeune, notamment, messieurs.
Bardet, pour moi.
Bardet devant Quintana, donc tu vois Quintana se
ramasser
sur ses tours.
C'est pour changer.
Ouais, c'est pour faire joli. Bon, Pinot du coup.
Et moi je vois Bardet, mais je le vois troisième.
Ah oui, c'est vrai que c'est cohérent, mais ce que dit Philippe. Julien?
Je sais pas.
Alors ça sera Quintana aussi, je te connais. Du côté du podium du Tour de France 2015, messieurs, il va falloir me donner le podium. C'est pas facile, ça c'est vraiment la difficulté du jour dans Radio Vélo, mais les commentaires vont bon train sur le Facebook. Tout le monde on a envie de savoir votre pronostic, votre tiercier gagnant, comme dirait Omar Sharif. En tout cas, voilà, le favori des bookmakers, c'est Chris Froome à 2,75. Vous avez Quintana 3,25, Contador à 5, Nibali 5,50, Pino, Vanguard de Rennes, Rodriguez, Porte, Bardet, Valverde, Machka, pourquoi pas Machka si Contador n'y arrive pas, Talansky, Roland, Urán, allez-y, Costa, le podium, trouvez-moi le podium, il reste quelques secondes seulement dans cette émission.
Moi je me lance, je mets Quintana, je mets Porte et Vanguard de Rennes.
Quintana, Contador, Froome.
Philippe.
Allez, on va faire un peu original. Nibali, Contador, Bardet.
Et c'est tout, il y a faux que droit. Voilà. Seb.
Mais Philippe m'a piqué le podium. J'aurais dit aussi Nibali, Contador et Quintana.
Et pour moi, ce sera Quintana, Vanguard de Rennes, Contador, Vanguard de Rennes qui va peut-être donc monter sur le podium du Tour, du moins pour l'équipe Radio Vélo. Ça se trouve, on va prendre un gros vent, il fera 51e. Bref, on suivra tout ça. Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Les bouquins, là, tu les as tous vendus?
Oui, les bouquins. Le dernier petit bouquin, c'est le guide du Tour 2015. Effectivement, ça dérive un petit peu les étapes, mais surtout le côté touristique du Tour. Donc c'est un bouquin qui était vraiment intéressant à garder même après le Tour, parce que vous découvrez des villes effectivement, comme du côté de Saint-Jean-de-Maurienne par exemple, où on fabrique les opinels, et on vous parle dans ce livre du musée opinel. Donc par exemple, dans toutes les villes qui traversent le Tour, ça parle un petit peu de tourisme, du cheval à Tarbes par exemple, dans tout ça effectivement. Puis également quelques rétros sur les coureurs comme Raymond Martin, comme Copy, comme voilà. Donc rétrocyclisme,
il est parti,
tourisme.
Il est parti,
voilà.
Merci,
voilà, voilà.
Philippe, fin de la saison, les coups de sifflet final pour la troisième saison de Radio Vélo sur CETA Radio. On vous tient au courant cet été pour ce qui se passe à la rentrée prochaine. Les podcasts à torer à travers sous une tente au bord du Tour, hein, n'hésitez pas, radiovélo.fr dès la fin de soirée. Merci à tous, merci à toutes de votre fidélité.
Bon tour et bonnes vacances.